retour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur le hasard qui fait parfois bien les choses. Alors pourquoi ne pas lui laisser sa chance au hasard et même lui consacrer un congrès scientifique mondial en cette hasardeuse année 2021. Regard croisé sur le hasard, l'aléatoire et l'imprévisible, en compagnie du mathématicien Jean-Paul Delahaye, notre invité, avec les éclairages de chercheurs et chercheuses de toutes disciplines qui se sont un jour ou l'autre, comme nous tous, interrogé sur le hasard. Existe-t-il vraiment? Comment le percevons-nous? Dieu jouerait-il au dé, mystère et boule de cristal? Autour de la question pourquoi laisser une chance au hasard? Bienvenue pour tenter la vôtre de chance, pour gagner peut-être un exemplaire de cet ouvrage sur le hasard dans tous ses états, paru chez Belin sous le titre « Pourquoi moi ?» C'est vrai ça. Pourquoi moi et pourquoi pas toi?
Pourquoi toi spécialement? Ce même jour, des milliers de vieilles voitures ont roulé dans le monde entier et ne sont pas tombées en panne. Donc, toi, tu décides que la cause de l'accident, c'est l'embrayage. Parce qu'il était vieux et usé. Point final. Mais c'est là que tout commence.
Tu sais ce qu'on dit? Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito.
Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, extrait du film Yao. À quoi Einstein aurait pu répondre que Dieu ne joue pas au dé? Mais là, on va avoir besoin de vos lumières, Jean-Paul Delahaye. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous depuis Lille, où vous êtes professeur d'informatique à l'Université des sciences et des technologies. Vous êtes Jean-Paul Delahaye, mathématicien, logicien, informaticien, auteur de nombreux ouvrages. Pardon, sur la logique et les inattendus des mathématiques. Vous avez mené vos recherches sur la théorie computationnelle des jeux et vous travaillez aujourd'hui sur cette question du hasard qui fera donc l'objet du prochain congrès scientifique mondial Time World en juillet prochain. Le hasard dans tous ses états qui fait déjà l'objet d'une publication aux éditions Belin à laquelle vous avez collaboré, Jean-Paul Delahaye, comme de nombreux autres chercheurs de toutes disciplines, biologie, astrophysique, anthropologie, philosophie, mais aussi astronaute, pilote de haute voltige ou médecin, ouvrage intitulé « Pourquoi moi ?». Alors, pourquoi vous, Jean-Paul Delahaye, en tant que mathématicien, vous êtes-vous intéressé au hasard?
Je pense que tous les mathématiciens s'intéressent au hasard, tout simplement parce que on rencontre le hasard en particulier quand on joue, mais bon, dans la vie courante évidemment, mais le hasard qu'on rencontre quand on joue au dé, aux cartes, c'est un hasard qui est en quelque sorte plus discipliné, dont on arrive à comprendre un certain nombre de régularité.
Oui.
Donc, puisqu'on arrive à rencontrer les régularités, on veut en savoir plus. Et donc, tous les mathématiciens s'intéressent au hasard. Et en informatique, puisque je travaille en informatique,
oui.
Le hasard joue un rôle assez important. Alors, de façon, d'une part, on essaie de les éliminer complètement. Puisque un ordinateur qui marche bien, c'est un ordinateur où il ne se passe rien au hasard.
Façon. Où tout est bien calculé, bien prévu, justement.
Voilà. Donc, si tout va bien, il y a rien qui se passe au hasard que l'ordinateur fonctionne. Bon, c'est bien que c'est pas tout à fait comme ça. Mais, en informatique, on a besoin aussi souvent de faire des simulations où, en cryptographie, on a besoin aussi du hasard. Et donc, en fait, en informatique, on cherche à recréer le hasard. Donc, à recréer du hasard.
Mais à recréer, quoi? À recréer de l'aléatoire, c'est ça? Pour changer de mot, c'est ça, hein?
À recréer, par exemple, l'équivalent d'un tirage à pile ou face ou de choses comme ça. Parce que on a tenté d'éliminer complètement le hasard de la machine, mais finalement, pour faire des simulations ou en cryptographie, on a le droit de le recréer. Donc, il faut réussir à créer du hasard avec quelque chose qui, a priori, a été fait pour qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est une sorte de paradoxe. Et c'est une vraie difficulté de l'informatique de savoir recréer des suites, ce qu'on appelle pseudo-aléatoires, et qui ressemblent le plus possible aux suites aléatoires.
Comment recréer du hasard? Ça, on va venir après avec vous, Jean-Paul Delahaye, mais j'ai quand même envie de vous demander votre définition du hasard en mathématiques, en informatique, mais votre définition du hasard.
Alors, la définition du hasard qui me satisfait le mieux, c'est celle qui a été produite par les théoriciens du calcul,
oui.
Paul Mogorov et puis Grigory Chétine, et qui considèrent que quelque chose est au hasard, donc une suite de 0 et de 1 peut être considérée comme au hasard si elle est incompressible. C'est-à-dire si on ne peut pas réussir à trouver des régularités qui permettraient de l'exprimer de manière plus brève.
L'incompressibilité du hasard. Oui, expliquez-nous ça, Jean-Paul Delahaye.
Oui, par exemple, si vous prenez 1000 fois 0, 1, vous avez une suite de 2000, 0 et de 1, bon, mais je viens de la décrire en quelques mots. 1000 fois 0, 1. Donc ça, c'est compressible. 1000 fois 0, 1, les uns derrière les autres, c'est compressible. Une suite qui va vraiment être aléatoire, 0, 1, 1, 0, 1, je dis n'importe quoi, elle, on ne pourra pas la décrire plus rapidement que simplement en l'énumérant élément par élément. Mmh. Et donc, l'incompressibilité, c'est ça qui va être la caractéristique du hasard. Et cette idée-là est une idée qui, mathématiquement, est très, très féconde, qui a donné lieu à une notion rigoureuse de suite infinie aléatoire qui a été définie donc, par le mathématicien suédois Pierre Martinov. Et donc, voilà, c'est la définition qui, moi, me satisfait le mieux et qui est effectivement très féconde en mathématiques.
On va voir, on va essayer de comprendre comment et pourquoi le hasard, c'est l'incompressibilité autour de la question pourquoi laisser une chance au hasard et pourquoi cette question du hasard, justement, nous concerne, nous intéresse tous. Nouvel éclairage, allez, d'un autre mathématicien qui a aussi consacré ses recherches à cette question, c'est Ivar Ekland, qui nous expliquait ici même, dans ce studio, c'était en 2016, pourquoi le hasard nous intéresse tous et nous concerne tous.
Bien, je crois que ça intéresse tout le monde, hein. Il y a un côté un peu mystérieux, c'est ce qu'on ne comprend pas. Alors, pour un scientifique, c'est un challenge, hein. Il vaut mieux chercher à comprendre ce qu'on ne comprend pas, plutôt que chercher à comprendre un peu mieux ce qu'on comprend déjà.
Alors, un challenge, oui, mais qui correspond aussi à des travaux que vous avez menés, notamment sur la modélisation en économie et en finance.
Oui, ça intervient beaucoup. En économie et en finance. Ça intervient aussi dans le comportement de tous les jours, ce que vous aviez parlé de la théorie des jeux. À certains moments, il faut être imprévisible. Par exemple, l'exemple classique, c'est le gardien de but au moment du pénalty.
Il faut qu'il soit imprévisible.
Il faut qu'il soit imprévisible, hein, vous voyez bien. Vous avez affaire à des professionnels, ils se connaissent parfaitement bien. Le tireur sait quel est le côté préféré du gardien. Le gardien sait quel est le côté préféré du tireur. Ils ont vu des centaines de vidéos des uns sur les autres. Comment fait-on pour être imprévisible? Et la théorie dit, pour être imprévisible, il faut être d'abord imprévisible à soi-même, et à ce moment-là, l'idéal serait de tirer au sort.
Comment être imprévisible à soi-même et comment se tirer au sort tout seul entre pile ou face? Vous voulez réagir à cet éclairage du mathématicien Ivar Ekland, Jean-Paul Delahaye?
Oui, c'est cette question d'être imprévisible est absolument essentielle dans le domaine de la cryptographie. Si on sait produire des suites qui sont réellement imprévisibles, on saura en même temps bien chiffrer des messages et puis faire toutes sortes d'autres choses dont on a besoin en cryptographie. Donc, cette imprévisibilité, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas sans rapport avec l'incompressibilité que je mentionnais tout à l'heure. Si une suite infinie est aléatoire, en fait, le fait de connaître ces n premiers éléments ne donne aucune information sur l'élément suivant. Il a une chance sur deux exactement, et on a beau faire tous les calculs qu'on veut à partir des n premiers éléments, avoir l'élément suivant, le n plus unième, est quelque chose qui ne peut pas être fait mieux que avec une probabilité d'une chance sur deux de réussir quand on a affaire à une suite aléatoire. Donc l'imprévisibilité, c'est effectivement une autre caractéristique mathématique bien éclaircie aujourd'hui du hasard.
Bien éclaircie, c'est-à-dire que les mathématiciens comme vous comprennent le hasard, on pourrait dire donc en mathématiques comme sorte de synonyme. Vous avez parlé d'incompressibilité, donc imprévisible, hein, imprévisibilité et aléatoire. Ce serait ça des sortes de synonymes du hasard en mathématiques, en informatique, si utile aujourd'hui et qu'il faut apprendre en machine, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la théorie est maintenant bien mûre, et on démontre des théorèmes qui établissent l'équivalence entre l'incompressibilité et l'imprévisibilité. Donc, il y a toutes sortes de résultats qui confirment pleinement cette idée qui est assez intuitive que le hasard, c'est effectivement à la fois l'imprévisibilité et l'incompressibilité.
Autour de la question « Pourquoi ne pas laisser une chance au hasard ?», allez, tout de suite, une nouvelle question pour vous, Jean-Paul Delahaye, soulevée par mon confrère, assez joueur de Science et Vie Junior, Jérôme Blanchard. On l'écoute.
Donc à propos du hasard, j'ai envie de poser une question sur les jeux de hasard. Pourquoi est-ce que les casinos gagnent toujours ?
Est-ce que vous avez la réponse, Jean-Paul Delahaye ? Ça nous intéresse.
Oui. La réponse, elle est relativement simple. Elle a été bien éclaircie dès le XVIIe siècle, où quand on a commencé à étudier les jeux de hasard. Elle est basée sur ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique d'un jeu, c'est ce qui vous indique quelle est la proportion d'argent que vous allez récupérer quand vous allez jouer, par exemple, disons 100 euros. Mmh. Une fois qu'on s'est calculé cette espérance mathématique, ou bien elle est favorable, c'est-à-dire quand vous jouez 100 euros, vous avez une espérance mathématique de 110 euros. Alors vous n'avez pas gagné à chaque fois, mais en moyenne, sur le long terme, vous gagnerez 110 euros. Donc vous avez intérêt à jouer. Et les casinos, justement, ne proposent à leurs clients que des jeux dont l'espérance mathématique leur est favorable.
Alors, favorable aux casinos eux-mêmes, c'est ça, hein?
Oui, c'est les casinos qui choisissent les règles du jeu qu'ils imposent, qu'ils proposent. Et quand vous jouez au casino, l'espérance mathématique est favorable au casino. Donc, en moyenne, vous perdez. Bon, voilà, c'est ça. Alors, vous ne perdez pas forcément beaucoup. Et les casinos savent très bien calculer ces choses-là. Ils savent, par exemple, qu'ils vont rendre 99 euros pour 100 euros joués, ou moins. Et ce sont des valeurs qui sont calculées. Et aux États-Unis, les casinos affichent cette valeur, cette proportion d'argent qui est rendue en fonction de l'argent qui est misé, parce que c'est effectivement l'intérêt du joueur de choisir le casino qui rend la plus grande proportion d'argent par rapport à ce qui est joué. Mais le casino ne rend jamais 101 euros pour 100 euros joués.
Et c'est le même principe pour toutes les loteries, finalement, pour tous les jeux de hasard, entre guillemets.
Oui, bien sûr, la Française des jeux sait très bien faire les calculs pour savoir quelle est la probabilité de gagner, quelle proportion d'argent elle va gagner sur le long terme. Maintenant, il peut y avoir un mauvais coup, on peut faire sauter la banque dans un casino, mais statistiquement, sur le long terme, le casino gagne une certaine somme d'argent qui est proportionnelle aux sommes d'argent qui sont misées sur le casino.
Alors, vous avez dit sur le long terme, hein, Jean-Paul Delahaye, je pense que c'est une phrase importante, ça, parce qu'au fond, on peut croire que c'est du hasard. Or, si on regarde sur le long terme, il y a peut-être moins de hasard que ça. Je le dis de manière un peu rapide, mais c'est ça.
Quand il se produit plusieurs événements consécutifs qui semblent aller dans le même sens, par exemple, je sais pas, il y a trois fois de suite le noir qui tombe à la roulette, ou même cinq fois de suite, on a l'impression qu'il y a une sorte de règle qu'il faut identifier. Bon, maintenant, sur le long terme, le nombre de fois où il y aura cinq fois de suite le noir qui tombera au casino, c'est exactement conforme à ce que les probabilités calculent. Et donc, en fait, sur le long terme, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de règles qui permettent d'anticiper ce qui va tomber quand on joue, par exemple, à la roulette au casino. Et donc, effectivement, sur le long terme, d'une certaine façon, les règles qu'on essaie de voir et qui, si on arrivait à les identifier, nous seraient favorables, ça n'existe pas. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire pour vous qu'il n'y a pas vraiment de hasard ou pas de vrai hasard pur ?
Non, moi je je dis pas. D'abord,
vous dites pas ça.
Le casino, il compte effectivement sur un hasard pur. Et plus le hasard sera effectivement honnête, plus les calculs qu'il va faire d'espérance mathématique seront exacts. Il y a quelque chose qui est bien connu, c'est que les casinos ont intérêt à ce que la roulette soit bien réglée, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y ait aucun des chiffres, des nombres qui peut tomber, donc de 0 jusqu'à 36, qui tombe avec une plus grande probabilité que les autres. Leur intérêt, c'est que le hasard soit le plus parfait possible quand ils font fonctionner une roulette. Si la roulette était légèrement déformée ou qu'une case était plus grande ou je ne sais quoi, un joueur qui s'en apercevrait pourrait exploiter cette déformation à son profit. Et donc, l'intérêt du casino, c'est de faire que le hasard soit le plus pur possible, le plus vrai possible.
Autour de la question du vrai, du pur hasard et des jeux de hasard, je propose d'écouter Emmanuel Béard sur RFI. Et moi, je vis ma vie à pile ou face, extrait de la bande-son du film « 8 femmes ».
Moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile ou face, mes amours se jouent à pile ou face, dans un léger flou à pile ou face, je risquerai tout, un coup je m'égare, un coup je me garde. Chaque jour devant ma glace, je vois des rêves qui passent, d'autres qui s'effacent. C'est le temps qui se cache. Mais moi je vis ma vie à pile ou face, toutes mes émotions à pile ou face, chaque sensation à pile ou face, sans hésitation. Un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie à pile ou face, mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse.
Emmanuel Béard à pile ou face, reprise de la chanson de Corinne Charby dans 8 femmes, le film de François Ozon sur RFI. Nous sommes en compagnie du mathématicien Jean-Paul Delahaye qui mène ses recherches sur le hasard, entre autres, et qui a participé à l'ouvrage collectif « Pourquoi moi ?», point d'interrogation, le hasard dans tous ses états, aux éditions Belin, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, ça se joue à pile ou face aussi, mais il faudra d'abord tenter votre chance en nous le demandant par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Pourquoi laisser une chance au hasard ?». On continue de s'interroger avec un nouvel éclairage vu du ciel. C'est celui de la championne de voltige aérienne, Catherine Monoury, présidente de l'Aéroclub de France, ancienne directrice du musée de l'air et de l'espace. La voltige aérienne peut-elle laisser une place au hasard? Réponse en forme de pirouette au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
Le hasard chez nous, c'est à la fois une notion qui permet d'évoluer. C'est un peu grâce au hasard qu'on fait des trouvailles, même en pilotage. Hein. Un pied qui glisse, ça se dire « Ah, ça marche ». L'éloigner, ce serait effectivement de ne pas décoller, même chose. Mais on essaie de réduire la part du hasard, parce que pour nous, il est synonyme de risque. Vous avez le hasard technique et puis le hasard humain dans le pilotage qui vont se compléter. Et on essaie d'avoir prévu en amont tout ce qui est possible. Et ensuite, au moment où on l'est, d'avoir une espèce de maîtrise des événements. Chez nous, c'est la checklist. La checklist, le briefing. Parce que quand on va être dans l'action, il va falloir aller horriblement vite. Et les décisions sont très difficiles à prendre si vous ne les avez pas largement anticipées. Alors après, on peut réfléchir au-delà, au hasard, en se disant peut-être que si on savait plus de choses, si on connaissait mieux la météo, si on pouvait prévoir encore d'autres choses. Le hasard existe peut-être pas tout à fait, mais il existe assez pour nous, pour être, disons, peut-être le souci numéro un.
Le hasard, souci numéro un en voltige aérienne, où il n'a pas sa place, ça on le comprend. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet ouvrage. Pourquoi moi? C'est de croiser les regards sur le hasard, hein, ambigu, omniprésent, silencieux, le hasard du vivant, le hasard qu'on peut mesurer ou pas, et qui, comme le disait Fénelon, on marche au hasard pendant toute sa vie. Jean-Paul Delahaye, vous qui êtes informaticien, mathématicien, vous voulez réagir à ce hasard comme risque, et comme risque majeur, notamment en voltige aérienne?
Alors, je me disais que la situation était peut-être un peu équivalente à celle des gens qui fabriquent des ordinateurs, qui conçoivent des puces informatiques. Oui. Ils essayent d'éliminer au maximum le hasard. Et puis malheureusement, un rayon cosmique, alors dans le cas d'une puce informatique ou autre chose, peut contrarier cette volonté d'éliminer tout ce qui pourrait contrecarrer le projet qu'on a de fonctionnement ou de voltige quand il s'agit de voltige aérienne.
Oui, le hasard.
Il y a une sorte de comparaison à faire de ce point de vue-là.
Oui, entre vous, chercheurs en informatique, quand vous essayez donc de supprimer le hasard des machines, le hasard, on a parlé de ses synonymes, hein, imprévisibilité, incompressibilité, ça c'est vous qui nous l'avez appris. Le hasard, c'est pas le chaos, c'est pas la même chose, Jean-Paul Delahaye.
Alors, le hasard, c'est pas le chaos d'une certaine façon, c'est plus ennuyeux parce que le chaos, c'est le désordre. Tout ce qui est désordonné va être une forme de chaos, de choses imprévisibles, mais parfois plus gravement que le hasard, justement, mm-hmm. qui a, quand il s'agit par exemple du hasard du jeté d'un dé ou d'une pièce de monnaie, qui va en quelque sorte avoir suffisamment de régularité pour qu'on puisse en dire des choses. Si on lance 1000 fois une pièce de monnaie, elle va tomber à peu près dans 50% des cas sur pile, à peu près dans 50% des cas sur face. Quand on a affaire à quelque chose qui est chaotique, les choses sont plus compliquées. On peut parfois réussir à ramener des règles de nature probabiliste, statistique sur ce chaos, mais ça risque d'être plus difficile. Donc voilà, le chaos, d'une certaine façon, c'est une sorte de hasard un peu méchant, on pourrait dire.
Un hasard méchant, c'est ça. Si on vient à l'étymologie du mot hasard, il vient de l'arabe, hein, il vient du jeu de dés, hein.
Oui, je crois qu'il vient du jeu de dés, oui, tout à fait.
Et en citant Einstein, Dieu ne joue pas au dés, selon Einstein, dans sa célèbre confrontation avec le physicien Niels Bohr. Dieu ne joue pas au dés, mais pourtant il y a du hasard partout et tout le temps.
Alors en fait, je pense que Einstein disait « Dieu ne joue pas au dés » parce qu'en fait, il voulait défendre une conception de la physique où il n'y a pas de hasard fondamental et où tout ce d'une certaine façon, même si on n'arrive pas à l'identifier, il y a une sorte de déterminisme fondamental. Mmh. Et ce que disaient c'était Niels Bohr et d'autres physiciens, c'est qu'il y a une sorte de hasard intrinsèque et que face à ce hasard intrinsèque, Einstein était insatisfait et il ne voulait pas admettre que Dieu puisse jouer au dé à chaque instant dans un phénomène de mécanique quantique.
Ouais, parce que le hasard fait partie de la vie, de toutes nos vies, hein. De toute façon, on ne peut pas faire sans le hasard. Et comment on fait avec le hasard quand on est dans l'espace, quand on est astronaute? Je vous propose d'écouter un autre témoignage passionnant, c'est celui de l'astronaute Jean-François Clairvoy, dans cet ouvrage « Pourquoi moi ?», point d'interrogation, et dans le futur congrès mondial scientifique sur le hasard, qui aura lieu en juillet, autour de la question « Quelle chance l'astronaute peut-il laisser au hasard ?» Jean-François Clairvoy s'en explique au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
En astronautique et dans les vols habités en particulier, on veut laisser aucune place au hasard. Pour une raison simple, c'est qu'une fois qu'un objet spatial est dans l'espace, s'il y a un problème, on ne peut pas tout éteindre et appeler l'équipe de maintenance pour le réparer. Donc l'astronaute, on lui explique s'il vole après qu'il y ait déjà eu des accidents. C'était mon cas, j'ai volé après l'accident de Challenger de 1986, mais avant l'accident de Columbia en 2003. Mais à chaque fois, un équipage, quand il vole, on lui explique quels sont les accidents graves qui ont lieu dans l'espace avant notre mission, dont celles qui ont causé la perte humaine d'équipage, comment on a trouvé la cause, comment on l'a corrigée et comment on a même amélioré au-delà de juste la correction. Donc un astronaute qui part, il part en totale connaissance de cause des risques. Dans notre esprit, au moment où on décolle, il n'y a pas de place du hasard. Si jamais on n'est pas tout à fait prêt ou le vaisseau n'est pas tout à fait prêt, si quelqu'un vient nous dire « bon, on pense que c'est bon pour décoller, il y a ce truc-là, on n'a pas eu le temps de vérifier, mais on pense que c'est bon quand même », dans ce cas-là, on ne part pas. On ne décolle pas en acceptant une part un peu d'incertitude. C'est impossible.
Quelle question vous vous posez encore liée au hasard?
Vous savez, un astronaute qui regarde la Terre depuis l'espace, qui a une vue inouïe qu'on ne peut pas représenter par une photo ou un film, dans l'espace avec vos propres yeux, votre champ de vue porte à 3000 km à la ronde. Le contenu change très vite puisqu'on fait le tour de la Terre en une heure et demie. Ça veut dire qu'en quelques minutes, vous passez des déserts de l'Himalaya aux atolls de Polynésie turquoise, aux forêts tropicales de l'Amérique centrale, au désert de l'Afrique, tout ça en quelques minutes, quelques dizaines de secondes. c'est très très beau, à tel point que tout astronaute, même le plus endurci, aura des larmes aux yeux. Moi, je me souviens m'être pincé et avoir pincé les collègues en disant « C'est bien nous, là, en ce moment, qui avons ce spectacle sous nos yeux et on en avait des larmes aux yeux. » Et là, on se pose la question. Comment cet être vivant, géologique, climatique, tectonique, cosmique, avec ses impacts d'astéroïdes, ses montagnes, ses reliefs, ses couleurs, ses variétés, ses contrastes, comment ça a été créé? Est-ce que c'est le fruit du hasard?
L'univers, et puis nous, tous les vivants qui le composent, sommes-nous tous le fruit du hasard? Ça, c'est impossible de répondre à cette question, Jean-Paul Delahaye.
Oui, enfin, les biologistes sont quand même d'avis de dire que le hasard joue un rôle important dans l'évolution. Donc, d'une certaine façon, oui, nous sommes le fruit du hasard.
Et quel est le rôle, justement, du hasard dans l'évolution? Alors, je sais que vous n'êtes ni biologiste ni astrophysicien, mais dans l'évolution du cosmos en général, dans nos vies en particulier, c'est une question métaphysique, mais à laquelle se sont un peu prêtés quand même tous ceux qui ont participé à cet ouvrage. Même si on ne peut jamais y répondre, il y a des pistes quand même. Le hasard, c'est aussi grâce au hasard qu'on est tous là.
Oui, parce qu'en fait, le hasard, c'est une méthode pour explorer un grand nombre de cas différents qu'on ne peut pas nécessairement anticiper mm-hmm. par la simple action de l'intelligence. Et donc, le hasard va nous mettre dans des situations qu'on n'a pas anticipées et du coup va enrichir d'une certaine façon la façon dont on explore le monde, dont on est informé par le monde. Et je pense que c'est cette capacité de créer des situations nouvelles qui fait que le hasard dans l'évolution a eu ce rôle qui est jugé si important par les biologistes.
Oui, le hasard peut faire du neuf, c'est pas seulement ce qu'on ne comprend pas, c'est le hasard peut emmener dans d'autres directions. Autre question soulevée par le témoignage de l'astronaute Jean-François Clairvoy, l'univers est-il beau par hasard? Ça aussi c'est une grande question qui peut aussi toucher les mathématiciens comme vous d'ailleurs.
Je ne sais pas trop quoi dire. La notion de beau est une notion qui est compliquée.
Est-ce qu'on peut dire que le...
Pourquoi est-ce que nous percevons la Terre vue de haut comme belle? Pourquoi est-ce que nous percevons une montagne comme belle? Ce sont des questions très difficiles. Je ne sais pas répondre à ces questions-là. Non.
Et est-ce que vous sauriez répondre autour du hasard, toujours bien sûr, à l'effet papillon ou à ce battement d'aile d'un papillon qui peut, par ricochet, provoquer un cyclone à l'autre bout du globe? Là aussi, c'est quoi? C'est du hasard? C'est un grain dans la machine?
L'idée, c'est les... C'est de dire qu'il y a des chaînes causales qui sont tellement complexes et qui se déroulent sur des distances tellement grandes que d'une certaine façon, elles créent de l'imprévisibilité. Même si tout est déterministe dans certains systèmes qu'on peut concevoir de manière purement abstraite, les chaînes causales vont être tellement complexes qu'au bout du compte, le système va avoir un comportement comme s'il était aléatoire. Et donc, c'est la sensibilité aux conditions initiales et ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est l'idée que les battements d'ailes du papillon vont entraîner une sorte de petit vent qui va avoir une certaine conséquence, qui elle-même va avoir une autre conséquence, etc. Et qui, au bout du compte, sera peut-être une des sources de tel cataclysme climatique ou autre chose. Et donc c'est l'idée de l'imprévisibilité des choses qui sont très complexes. C'est la sensibilité aux conditions initiales.
C'est ça, c'est l'imprévisibilité de ce qui est très complexe. C'est aussi, vous le disiez, en termes d'évolution, c'est-à-dire le hasard, ça peut être méchant ou ça peut être bénéfique comme ça peut être négatif. Un chercheur que j'avais rencontré me disait que le hasard le réconciliait avec la vie parce que c'est ce qui amène quoi? Oui, du neuf. C'est ce qu'on disait aussi.
Oui, c'est bien ça. C'est l'idée que si tout se déroulait comme se déroule un lancer de pièces de monnaie à pile ou face, d'une certaine façon, le monde serait un petit peu ennuyeux. Et donc, ces phénomènes qu'on qualifie de chaotiques ou d'effets papillons vont créer des situations qui seront beaucoup plus complexes à analyser, à comprendre, que le simple hasard qu'on trouve dans une pièce de monnaie ou un dé ou un jeu de cartes. Et oui, c'est ça, ça fait l'intérêt et ça fait des sujets scientifiques innombrables.
Innombrable, ça c'est le cas. Sur quoi travaillez-vous en ce moment, Jean-Paul Delahaye, autour du hasard?
Alors, un des thèmes qui intéresse beaucoup les mathématiciens et les informaticiens, c'est le thème de la complexité. Alors, la complexité, elle est liée au hasard par le biais que j'évoquais tout à l'heure de la notion d'incompressibilité. Et ces questions-là sont importantes aussi pour la cryptographie. Et alors, il y a un thème, et c'est le sujet que j'ai choisi dans le livre là, dont vous parliez, là, pourquoi moi, c'est le thème de la production de hasard public. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas connue aujourd'hui, sauf par les scientifiques qui s'intéressent à ces questions-là. C'est l'idée de pouvoir disposer, alors sur Internet en particulier, de sources aléatoires en lesquelles on puisse avoir totalement confiance. Alors j'explique le problème.
Des sources aléatoires, des sources de hasard public.
Voilà, des sources de hasard public. Alors l'idée, voilà, par exemple, vous voulez jouer à pile ou face avec quelqu'un par téléphone. Mm-hmm. Alors c'est très ennuyeux parce que si c'est vous qui lancez la pièce, vous allez pouvoir lui prétendre ce que vous voulez, que c'est pile, etc. Si c'est lui qui lance la pièce, il va pouvoir tricher aussi. Ouais. Donc en fait, ce que vous auriez, ce qui serait la solution pour vous, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous produise un 0 ou un 1 ou un pile ou face et auquel vous puissiez avoir confiance. Donc ça serait une source de hasard, et pour qu'elle soit comment utilisable de manière plus générale par tous les gens qui ont besoin de ce type de hasard, il faudrait qu'elle soit publique et donc infalsifiable, et il faudrait que même celui qui la produise puisse ne pas tricher. Et alors aujourd'hui, donc, on a mis au point un certain nombre de procédés qui permettent effectivement de créer ce hasard public infalsifiable. Donc, ni celui qui est la source de ce hasard, donc on parle de balise aléatoire, ni celui qui gère la balise aléatoire, ni ceux qui l'utilisent ne peuvent ni prévoir ce que la balise va émettre comme nouveau hasard dans les minutes qui suivent, avant la production, ni celui qui la produit ne peut le savoir et ne peut tricher. Et ensuite, une fois que ce hasard a été produit, on en garde des traces, donc il y a une sorte d'archive qui est fait de ce hasard qui a été produit, et on peut en quelque sorte vérifier ou utiliser ces traces, et c'est quelque chose qui peut être très utile dans un grand nombre de choses. Et par exemple, les tirages du loto pourraient être faits avec une telle balise, si il en existe aujourd'hui. Alors les tirages de loto ne sont pas faits par ce procédé-là, mais ça serait à mon sens bien plus rassurant pour les gens qui jouent au loto. En utilisant c'est des digits, en fait, des 0 ou des 1 aléatoires qui sont produits. On pourrait déterminer quel est le tirage du loto, et ni l'organisme qui produit le loto, donc la Française des Jeux, ni aucun joueur ne pourrait tricher avec ce hasard. Mais en particulier, la Française des Jeux ne pourrait pas tricher. C'est quelque chose qui évidemment est intéressant pour tous les sites internet de jeux, leur intérêt c'est qu'on ait confiance en eux, et pour qu'on ait confiance en eux, il faudrait plutôt qu'ils utilisent ce type de hasard public, bien certifié et bien contrôlé par les procédés qui sont utilisés pour le faire fonctionner, plutôt que d'utiliser des sources qui sont internes et qui sont finalement toujours un petit peu louches et qui peuvent donner lieu à toutes sortes de trucages.
Étonnant tout de même, jusqu'où vous nous entraînez avec le hasard, comment produire du hasard et un hasard qui soit public mais qui en même temps soit vraiment un hasard pur. Allez, on continue de s'interroger avec vous, Jean-Paul Delahaye, sur le hasard dans nos vies, dans nos jeux, et jusque dans le cosmos, et puis comment produire du hasard dans nos machines. On y revient juste après s'être accordé un pur moment de bonheur, par hasard peut-être, et par chance aussi, autour de la question pourquoi laisser une chance au hasard avec Mavis Staple sur RFI, Chance on Me.
I don't need a sky full of stars. I just need one. Just need one. You say that love is not in your cards. There's only so far you can run. Take a chance. Take a chance on me. Take a chance on me. Take a chance on me. If you do, or
if you don't. Both are a risk. If you will or if you won't, we can't go on like this. Take a chance on me. Take a chance, a chance on me. Take a chance, take a chance on me. Wondering, wondering. Lightning and thundering. Longing and hungering. Love gives us no warning.
Take a chance on me. Mavis Staples, à écouter sans modération sur RFI. Autour de la question, pourquoi laisser une chance au hasard? Take a chance on you, chers amis auditeurs. Qui vous pouvez remporter un exemplaire de l'ouvrage mis en jeu aujourd'hui? Pourquoi moi? Point d'interrogation. Le hasard dans tous ses états, publié aux éditions Belin, avant le premier congrès scientifique mondial sur le hasard, Time World, reporté pour cause de pandémie, reporté en juillet 2021. Congrès dans lequel sera évidemment abordé le lien entre hasard et épidémie. On fait le point tout de suite au micro de Charlie Dupiot avec le docteur en médecine et journaliste scientifique Gérard Lambert sur la part du hasard et de la nécessité dans la pandémie de Covid-19.
Je pense qu'il faut distinguer deux phases dans une épidémie. La première, c'est l'émergence. C'est comment un virus, une bactérie ou quoi apparaît à un endroit ou commence à diffuser à un endroit. Et puis la deuxième, c'est l'épidémie en elle-même et la cinétique de l'épidémie, la diffusion de ce virus. Donc ces deux phases, elles sont vraiment différentes du point de vue de l'intervention du hasard. On pourrait dire schématiquement qu'il y a une grande part de hasard dans la phase d'émergence. Il faut bien voir que, par exemple, la théorie darwinienne repose sur le hasard, c'est-à-dire sur des variations qui sont livrées au hasard et qui sont, effectivement, comme ça a été dit, le carburant de la sélection naturelle. Sur la phase d'émergence, il y a un ensemble de causes qu'on pourrait dire structurantes, qu'on a identifiées depuis les années 80-90, depuis qu'on est passé de la notion de maladie nouvelle ou épidémique à la notion de maladie émergente. On sait qu'il y a des causes qui reviennent un peu systématiquement, la déforestation, le bouleversement des équilibres écologiques, le rapprochement des rapports entre les hommes et les animaux, l'élevage intensif. Il y a toute une série de conditions qui vont favoriser cette émergence sans qu'on puisse dire, voilà, il va y avoir une émergence à tel endroit et à tel moment. Ensuite, dans la diffusion de l'épidémie, on a affaire un peu, on pourrait dire, à une loi des grands nombres. C'est-à-dire que on a de multiples individus qui vont marcher un peu au rythme des hasards sociaux. Mais comme on a un grand nombre d'individus, on peut un peu prévoir, ou du moins à court terme ou à moyen terme, la progression de cette épidémie. Vous avez vu les modèles qui ont été produits régulièrement. Ils ont leurs limites. Ils sont toujours faux, comme disent ceux qui font les modèles. Mais ils sont utiles dans un certain nombre de situations, et notamment quand on voit ce mur, cette vague arriver. Ça, on sait qu'il y a un vrai danger.
Vous voulez réagir à ces propos sur les liens entre épidémie et hasard, Jean-Paul Delahaye? Je rappelle que vous êtes mathématicien et que vous menez vos recherches sur le hasard.
Oui, alors, je pense que ce qui a été dit, c'est assez clair. L'émergence d'un virus dangereux comme celui de la Covid, ça, c'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, totalement imprévisible. Mmh, parce que... C'est trop compliqué de savoir tout ce qui peut se passer partout dans le monde, dans tous les êtres vivants. En revanche, une fois que le virus existe et qu'il commence à se diffuser, là, en revanche, on peut utiliser des modèles mathématiques. Donc, c'est un petit peu ce que je disais toujours à propos des pièces qu'on lance à pile ou face, il y a une certaine régularité. Et donc, dans la façon dont l'épidémie après se diffuse, on tombe dans quelque chose qui est plus facile à comprendre, plus facile à mathématiser. Les scientifiques sont plus à leur aise pour réfléchir à ce qui se passe. Mais dans l'émergence du virus, voire de ses variants, là je pense qu'il y a une sorte d'imprévisibilité dont on n'est pas prêt de sortir. C'est beaucoup trop complexe de savoir quels sont les variants qui pourraient devenir plus létaux ou se diffusant plus vite. C'est absolument impossible de prévoir ça.
Et dans cette émergence, impossible de prévoir où et quand. On peut dire ça va se produire, mais impossible de prévoir où et quand. Vous parlez de modélisation dans tous ces modèles, est-ce qu'il faut tenir compte des hasards, justement, dans les modélisations mathématiques? Vous parlez aussi de produire du hasard, de source publique du hasard et de produire du hasard. Est-ce qu'il faut tenir compte des hasards en modélisation?
Oui, bien sûr. Quand par exemple, on cherche à modéliser la circulation routière, il n'y a rien à faire. On ne peut pas imaginer une autoroute où toutes les voitures soient exactement espacées de 15 mètres les unes des autres. Donc, quand on va faire des modèles de circulation routière, on va introduire des éléments, alors pseudo-aléatoires, pas totalement aléatoires, produire une circulation qui soit plausible, c'est-à-dire des voitures qui sont séparées de 5 mètres, d'autres de 15 mètres, etc. Pareil pour les vitesses que vont avoir ces véhicules, elles vont pas être uniformes, elles vont varier un peu. Et donc, dans la modélisation de phénomènes complexes, en particulier de phénomènes sociaux, comme la circulation routière, c'est-à-dire quelque chose qui est social dans la circulation routière, il faut absolument introduire du hasard si on veut que le modèle ait la moindre chance de produire quelque chose d'intéressant. Absolument important. Et c'est ce que je disais au tout début. On a tenté d'enlever complètement le hasard des machines, des ordinateurs qu'on produit, mais justement, pour faire des simulations, il faut en réintroduire. Donc là, il y a toutes sortes de techniques pour produire du pseudo-aléa, et c'est très important de le réussir bien.
C'est ça, c'est ce que vous cherchez à faire, donc de produire aussi, comme vous dites, du pseudo-aléatoire, parce qu'au fond, le hasard, cet aléatoire, cette imprévisibilité, c'est du mouvement, c'est de la vie, ça fait partie de notre condition, même plus qu'humaine, c'est de la condition du vivant.
Oui, ou plus simplement, c'est simplement ce qui apparaît quand les choses deviennent très complexes, quand les choses deviennent très compliquées, quand il y a beaucoup de chaînes causales qui sont emmêlées. À ce moment-là, on peut plus utiliser des règles certaines. On est obligé de formuler des règles qui font intervenir le hasard pour avoir une modélisation qui soit plus exacte. Mais d'une certaine façon, c'est notre manque de compréhension fine et infiniment précise qui nous oblige à introduire du hasard.
Si on pouvait comprendre plus loin, encore plus large, peut-être qu'on n'emploierait pas ce mot de hasard. Et encore, parce qu'au fond, ce hasard, il sert à la recherche. Il y a un mot magnifique qu'on n'a pas énoncé, qui est le mot de sérendipité. Ça, c'est un concept en recherche qui signifie finalement découvrir par hasard quelque chose qu'on ne cherchait pas. Et ça compte. Et c'est utile. Et c'est plus qu'utile,
oui,
c'est créatif.
Il y a toutes sortes de découvertes qui ont été faites comme ça, de manière totalement non programmée, en observant tout d'un coup quelque chose qui était imprévu, puis en essayant de comprendre cette chose imprévue. Je crois que les fours à micro-ondes ont été découverts de cette façon-là, mais il y a bien d'autres exemples.
C'est ça, comprendre ce qu'on ne comprend pas, finalement, du bienfait du hasard. Autour de cette question du hasard et en guise de conclusion, je propose de laisser la parole à un autre formidable chercheur en informatique, Roberto Di Cosmo de l'INRIA, porteur du projet Software Héritage de Bibliothèque Universelle des Codes Sources des Logiciels Libres. On écoute Roberto Di Cosmo sur le hasard.
Derrière la question du hasard, il y a une question philosophique presque religieuse majeure. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout savoir? Est-ce qu'on peut tout déterminer de l'univers dans lequel nous évoluons? Il y a quelques siècles, on pensait que oui. On pensait que quelqu'un, en ayant toute sa position, tous les atomes de l'univers, il pourrait prédire absolument tout. Au siècle dernier, on a découvert que non, finalement, il y avait des phénomènes ultra chaotiques dans lesquels, même en sachant pratiquement tout de l'origine, avec un microscopique changement dans un endroit, ça pouvait changer tout dans les résultats finaux. Donc, et là, c'était un gros choc. On peut plus tout savoir. Il faut accepter sa limite, sa finitude, sa limitation. Et donc, il y a des phénomènes qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas. Et donc, là, on parle des hasards, n'est-ce pas? Donc, c'est cette histoire. On ne peut pas savoir.
On ne peut pas tout savoir, le pourra-t-on jamais? Jolie conclusion de Roberto Di Cosmo. Quelle serait la vôtre sur le hasard, Jean-Paul Delahaye?
Ma conclusion, c'est que le hasard est un sujet d'étude pour les mathématiciens et les physiciens, mais pour les mathématiciens en particulier, je dirais, qui est illimité. Et les progrès qui ont été faits récemment dans la compréhension du hasard, dans la définition du hasard que j'évoquais là, avec l'incompressibilité, sont des choses qui sont assez inattendues. Et le hasard public là, que j'évoquais aussi, ce sont aussi des recherches qui avancent beaucoup interroge et excite beaucoup les chercheurs en ce moment. Bon, pourquoi seulement maintenant on découvre tous ces problèmes-là et pourquoi est-ce qu'on réussit encore à avancer ? Visiblement, le hasard nous réserve encore plein de surprises au sens du chercheur qui cherche à comprendre. Il y a encore plein de choses à comprendre à propos du hasard.
C'est ça, plein de choses à comprendre. Et notamment, j'imagine, vous avez parlé de cryptologie, en matière de cryptologie, en matière, alors là c'est à venir et bien plus loin en physique quantique, mais on va avoir besoin de clés justement, de clés à chercher du côté du hasard, d'en produire, d'en générer.
Oui, on dispose déjà de beaucoup d'outils, hein, de beaucoup d'outils théoriques, de beaucoup d'outils pratiques. Je parlais pour des simulations, etc. Oui, mais on a encore des progrès à faire dans un certain nombre de domaines. En particulier, en cryptographie, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont encore à faire progresser pour mieux maîtriser la sécurité informatique qui est liée à la cryptographie.
Et oui, et qui est donc elle aussi liée à certaines clés autour du hasard. Vous reviendrez certainement nous en parler, Jean-Paul Delahaye, puisque la question reste ouverte sur le hasard. Je vous remercie en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Je vous souhaite de bonnes recherches sur le hasard. Et en tout cas, c'est une question à creuser dans cet ouvrage collectif « Pourquoi moi ?» auquel vous avez participé, Jean-Paul Delahaye, et le hasard dans tous ses états, qui vient de paraître aux éditions Belin et dont nous avons un exemplaire, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, à vous offrir si vous avez allé de la chance ou si le hasard fait bien les choses. Il vous suffit de nous écrire par mail ou sur notre page Facebook pour nous le demander. Et puis signalons aussi la tenue du Time World, du Congrès mondial scientifique sur le hasard, prévu en juillet prochain avec vous, Jean-Paul Delahaye, et avec de nombreux chercheurs et chercheuses, mais aussi artistes de tous horizons et de toutes disciplines. Le hasard n'a pas fini de faire parler de lui. Question avec et sans hasard, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes et sur RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour faire l'astronomie de l'étrange. Avec l'astrophysicienne et formidable passeuse de sciences astronomiques Yael Nazé, qui s'est intéressée aux personnages, mais aussi aux objets célestes les plus étonnants, les plus sidérants de l'univers. Carrément, m'est avis que l'on devrait bien s'amuser en tournant autour d'inclassables ovnis. Avec Hugo Violas à la réalisation, Raphaël Pluskva en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité, merci pour votre interactivité et votre fidélité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.